le patrimoine et la culture ne pouvant pas parler d'eux-mêmes, il faut un intervenant.
En gros, à cette époque, la France est morcelée entre plusieurs seigneurs.
Dès le premier millénaire, on va parler de Candé, mais dans des dialectes différents. Hein. Les Celtes, les Latins parlent de Condat, Condatum, Condéium.
Au-dessus du château d'Èvre, là, on a suffisamment maintenant d'éléments pour voir qu'on a un habitat dense.
Disons qu'avant la Révolution, on comptait 3 chapelles dans la commune.
Bonjour, c'est Rémi Baudin sur La Rage. Bienvenue à vous dans l'émission Emmenez-moi. Aujourd'hui, emmenez-moi sur la trace des manoirs et châteaux en Val de l'Indre. Par Val de l'Indre, il faut bien sûr entendre communauté de communes du Val de l'Indre, de Truy à Artane, en passant par Saint-Bran et Sorigny. Les manoirs et châteaux peuplent notre communauté de communes bien plus que ce qu'on pourrait croire. Je citerai notamment Le Breuil, La Motte, Longue-Plaine, La Belle-Jonchère, La Championnière, Vaugrignon, Bel-Air et bien d'autres. Certains sont devenus des hauts lieux de l'hôtellerie-restauration, comme Martigny ou La Tortinière même. Quand d'autres exposent leur richesse au public, comme Candé ou la forteresse du Faucon Noir, tous deux bien différents, évidemment. Et pour en parler, ce n'est pas moi que vous entendrez, bien sûr, mais c'est Pierre Audin, historien local, montois également. Bonjour Pierre Audin.
Et bonjour.
Je suis ravi de vous recevoir à nouveau dans cette émission Emmenez-moi. On va parler manoirs et châteaux. J'espère que vous avez révisé un petit peu votre sujet.
Oui, mais de toute façon, je connais bien la vallée de l'Indre depuis une bonne trentaine d'années.
Paraît-il que vous y avez beaucoup travaillé.
J'ai beaucoup visité, beaucoup étudié, beaucoup écrit dessus, effectivement.
Bah, ça tombe bien, alors je ne me suis pas trompé en vous invitant. Alors, Pierre Audin, première question, est-ce que déjà on peut... Il y a des châteaux qui ont été détruits ou dont on aurait perdu la trace dans le temps et dont on n'aurait plus connaissance aujourd'hui ou...
Ben, par exemple, à Vignier, il y avait le château du Creusot qui était construit au 19e siècle dans le style Louis XIII qui appartenait à l'imprimeur et éditeur Dalloz. Je ne sais pas si vous connaissez les guides Dalloz.
Oui, les bouquins de droit.
Voilà, ouais. Exactement. Ouais. Et qui ensuite, ce château est abrité à l'organisation TOT pour toute la France, c'est-à-dire l'organisation qui était chargée de préparer, de lancer les travaux le long de l'Atlantique et de la Manche, de fortifier les côtes, donc recruter du personnel et du matériel et d'acheter le ciment, le béton. Et ce château-là, il a été détruit par un incendie en 1981. Il a été rasé 2 ans plus tard, donc il n'y a plus de traces du château du Creusot à Vignier.
D'accord.
C'est un exemple.
Est-ce qu'on a d'autres exemples
comme
ça ?
Oui, par exemple, à Mont, il y a le château de la Freinée. Et vous me direz, il y a un manoir de la Freinée et un moulin au bord de l'Indre. Mais sur le plateau au-dessus de la route, il y avait là un château fort qui appartenait au comte de Montgomery. Personnage qui est entré dans l'histoire parce que au cours d'un tournoi contre le roi Henri II, sa lance a malencontreusement pénétré dans la visière du casque, du home, et lui a crevé l'œil et percé le cerveau. Et Henri II est mort en 1559. Sa veuve lui en a toujours voulu et a persécuté Montgomery. D'accord, et s'est réfugié en Angleterre, qui est devenu protestant. Et quand il a été capturé par la reine, il a eu droit à la question ordinaire, question extraordinaire, ça fait très très mal. Et ensuite, il a été roué. Donc, ses os ont été brisés sur une roue. Donc, la mort du comte de Montgomery, qui était châtelain de la Freinée à Mont, entre autres. Ce château a complètement disparu. Mm-hmm. Il n'y a plus qu'une demi-tour complètement en ruine au milieu des bois.
On en a d'autres.
Un autre, par exemple, qui me vient en tête, c'est celui dont vous nous avez parlé dans une précédente émission. Je pense que c'est le donjon du château de Montbazon. À l'intérieur de la cour, il y avait un autre château.
Oui. Est-ce que c'est celui qui a été démoli pour empirer l'Indre ?
C'est exactement ça. Je vois que vous connaissez bien vos classiques.
Je vous connais bien, j'ai révisé.
Voilà, c'est ça. Et c'est Hercule de Rohan, duc de Montbazon, qui l'avait laissé à l'abandon parce que lui, il avait construit le château de Couzières, ou agrandi le château de Couzières sur Vignier, mais pas loin de Montbazon.
D'accord.
Il n'y venait jamais, mais enfin, peu importe. Et il l'a fait, il a laissé faire démolir ce château neuf, où était venu Charles VII en 1450, puis Louis XI un peu plus tard.
Mais j'en profite pour faire une parenthèse et dire à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver l'intégralité de cette émission sur la forteresse du Faucon Noir sur notre site www.la-rage.fr. Voilà. Oui, Pierre Audin, je fais mon travail. Alors, est-ce qu'on peut avoir des généralités sur ces châteaux et des points communs sur les châteaux du Val de l'Indre ?
Eh bien, déjà, un petit inventaire. Il y a disons, une bonne vingtaine de châteaux et une douzaine de manoirs. Ce qui fait entre 32 à 35 châteaux et manoirs.
Alors, question toute bête qui me vient tout de suite, c'est quelle est la différence entre un château et un manoir ?
Eh bien, un manoir, c'est un petit château, en fait, qui n'a pas eu de douve, par exemple, qui n'a pas eu de tour, de donjon. On a dit maintenant une tour maîtresse, mais enfin, donc, qui était une résidence plutôt non fortifiée, avec vraiment une grande ouverture sur les jardins.
Résidentiel.
Bassin, c'est résidentiel, purement résidentiel. Alors, il y a un mélange des deux, parce qu'il y a des certains nombres de châteaux forts qui ont été transformés par leurs propriétaires en résidence quand il n'y a plus de risque de guerre, quand la mode est passée, des châteaux forts, sombres, avec des meurtrières. Donc, ça se pense soit à la pression, soit à la demande des femmes, d'ailleurs. Il y a une ouverture sur les jardins, sur les bassins.
Oui, c'est des évolutions au fil du temps.
Voilà,
des mêmes châteaux qui évoluent.
On voit même des fois à l'intérieur d'un autre château, il y a une construction plus manoir, plus style manoir, si vous voulez. Donc, ça fait quand même beaucoup. Et c'est la commune qui en a le plus, c'est Vénier, avec une dizaine de châteaux et de manoirs.
Confondu.
Oui, il y en a beaucoup dans la vallée de l'Indre, en fait, parce qu'on est près de Tours. Il y a un moment donné, les rois ont résidé en Touraine, à Amboise, au Plessis-les-Tours, et à Tours même. Et donc là, toute la cour où les riches bourgeois ont construit des résidences ou des résidences secondaires à proximité.
Donc, on avait en quelque sorte des personnages de seconde zone qui venaient tout près de Tours, pour, enfin des courtisans.
Voilà, c'est ça. Mais aussi des riches marchands qui avaient une sorte de pied-à-terre à la campagne. C'était une sécurité pour avoir aussi du vin, des légumes, des fruits, et y aller s'enfermer quand il y avait une épidémie en ville, et puis prendre le bon air à la campagne de temps en temps, quoi, tout en y laissant en permanence un intendant ou un closier s'il s'agissait de vignes.
On a souvent des châteaux en fait, qui évoluent dans le temps, par exemple construits au XIe siècle en tant que château fort et qui ensuite évoluent en château renaissance et en résidence.
Ou agrandis d'une aile jusqu'à des dates récentes, parce qu'on a des châteaux qui ont été construits encore au XXe siècle. Je pense au château d'Artigny à Montbazon, 1923, et la même année aussi Bel-Air à Truy. Donc des châteaux très récents sont les derniers construits dans la vallée de l'Indre. Et ceux-là, ce sont des grands châteaux, y compris ceux du 19e.
Donc, au 19e ou même au 20e siècle, on parle encore de châteaux.
Ah, de vrais grands châteaux. Au 19e siècle en particulier, ce sont les nouveaux riches, soit dans l'industrie, dans la métallurgie, ou alors des grands propriétaires terriens. Eux, ceux-là, et souvent, ils avaient déjà hérité ou acheté une propriété avec un manoir ou un petit château, mais en tant que nouveaux riches, ils veulent quelque chose de très grand. Un minimum d'une quarantaine de pièces, avec beaucoup de personnel, des très grands parcs. Et là, on a ça, un certain nombre, à Mont, à La Roche, Le Breuil, des choses comme ça, qui sont des très, très grands châteaux de nouveaux riches.
Dernière question avant la petite coupure musicale. Quel est le premier château dont on est trace sur le Val de l'Indre ?
Eh bien, c'est celui de Montbazon,
la forteresse.
La forteresse de Montbazon, qu'on appelle maintenant un peu à tort le Faucon Noir, mais bon, là, c'est une très mauvaise traduction de Foulquenera.
Oui.
Mais peu importe, ça, c'est le premier château, puisque lui, il était construit déjà sur des terres prises à l'abbaye de Cormery sans autorisation au début du XIe siècle, autour de l'an 1000.
D'accord.
Là, le document qui fait foi, c'est entre 996 et 1006.
Merci Pierre Audin. Tout de suite, une première coupure musicale et on se retrouve après pour évoquer quelques-uns des plus beaux et des plus fameux châteaux du Val de l'Indre. À tout de suite.
Thank you.
On est de retour sur la rage dans Emmenez-moi, Emmenez-moi sur la trace des manoirs et châteaux en Val de l'Indre. Je suis avec Pierre Audin, notre historien local. Alors on va parler des châteaux qu'il peut y avoir dans chacune des communes. On va commencer par Artane, à l'extrémité ouest du territoire de la CCVI. Qu'est-ce qu'on a, Pierre Audin, Artane ?
Eh bien, il y a plusieurs châteaux et manoirs, bien entendu, 6 ou 7. Un des plus intéressants, c'est peut-être celui qu'on appelle le château des archevêques, qui était le château d'Artane, en fait, hein, parce qu'il faisait partie du patrimoine de l'archevêque. Chaque fois qu'il avait un nouvel archevêque, il pouvait utiliser à Cande, à Vernoux-sur-Maine et à Artane son manoir comme résidence d'été.
Là, c'est celui qui jouxte l'église, qui a d'ailleurs appartenu à ce château, c'est ça ?
Voilà, tout à fait, il jouxte l'église. C'était ça le cas en général, puisque l'archevêque allait directement dans l'église, même si des fois le château avait sa propre chapelle.
Oui.
C'est un château qui était construit à la fin du 15e siècle. Il en a gardé d'ailleurs un donjon qui est peut-être lui-même plus ancien, parce qu'en général, quand on reconstruisait un château, on gardait la partie la plus ancienne. C'était un symbole de seigneurie d'avoir un donjon ancien. Et il a été très restauré, il faut dire, dans les années 1920. On y ajoutait une aile, on y ajoutait une chapelle. Pour ceux qui ne connaissent pas, sur le côté du château, à l'arrière de l'église, il y a là un linteau de porte qui est sculpté aux armes d'un archevêque, Élie de Bourdeil, qui était un archevêque qui a eu un grand rôle. Et cet archevêque, il y est mort. Il a voulu être enterré là. Et finalement, il n'a pas respecté ses souhaits. En 1484, il était très, très malade. Il a voulu être transporté à Artane. Il y est mort. Il voulait être enterré sur place, sur une tombe anonyme, pour que les gens d'Artane foulent sa tombe sans trop le savoir. Et malgré ça, il est emmené à la cathédrale. Un siècle après, même pas, Christophe de Briac, un autre archevêque, est décédé lui-même à Artane. C'est une résidence qu'ils appréciaient beaucoup et où ils passaient l'été. Le climat leur paraissait agréable au bord de l'Indre. Ils se plaisaient là. Et donc, il y a deux archevêques qui sont morts à Artane. C'est aussi une des caractéristiques de ce château et qui est très, très sympathique. Qui
en
est
face,
inscrit
on...
d'ailleurs comme un...
Donc c'était le château des vieux archevêques, en fait, puisqu'ils y mouraient tous.
Oui, exactement.
En face, on a le château de la Motte, je crois, le manoir de la Motte.
Alors, c'est peut-être le plus ancien de la commune, ça, parce que c'est on peut dire le château de la Motte. Hein.
Donc privé, lui aussi, il faut quand même le dire.
Ah oui, ben, ils sont presque tous privés. Hein. Il a été construit au 15e siècle. Il a gardé d'ailleurs encore une grosse tour d'angle, qui est peut-être un ancien donjon qu'on a réutilisé. Il a été peut-être même construit sur une motte. Et la tradition dit que la motte a été arasée, que la terre a servi à niveler un peu le parc pour le mettre un peu plus hors d'eau, hors des crues de l'Indre.
Donc lui aussi est visible de l'Indre hein, depuis...
Oui, et ce château-là, c'était une résidence secondaire d'André Maginot, le constructeur de la fameuse ligne Maginot qui a été complètement contournée par les Allemands en 40. Mais à ce moment-là, il n'était encore que député de Paris et de 39, car en 1929, 30, 31, 32, il venait régulièrement pendant l'été dans ce château de la Motte.
C'est
quand André Maginot, plus tard, a été calomnié et s'est suicidé. Bon, enfin, on ne va pas refaire l'histoire, mais voilà une personnalité qui aimait venir en Touraine à Artane.
En bref, on a d'autres châteaux moins connus
sur Artane, oui, il y aurait par exemple un manoir de la Turbelière, qui est route de Villeperdue. Un joli manoir dont l'étage est à colombage, un manoir du 15e siècle. Et là, il était propriété de Gaucher de Sainte-Marthe. Alors, Gaucher de Sainte-Marthe, personne ne le connaît maintenant. Il écrit l'histoire du roi au 16e siècle, mais il a servi de personnage au fameux Picrocole. Rabelais s'est moqué de lui dans Gargantua et Pantagruel, parce que c'était il passait pour un avare, tout ça. Bon. Un autre manoir d'Artane. Méret, ça dit quelque chose aux gens, peut-être encore sur la route de Villeperdue. C'est un manoir qui a été reconstruit plusieurs fois. Actuellement, il date du 18e, mais sur l'emplacement d'une villa carolingienne qui est citée en 860. Il y a gardé aussi une tour carrée médiévale. Alors, il a appartenu au père de Paul-Louis Courier, qui s'appelait Courier de Méret. Quand il a acheté ça, il a pris le nom de Courier de Méret dans les années 1770. Et Balzac, plus tard, dans les années 1830, il est venu parce que ce château était propriétaire d'un nouveau riche venu du Canada, Landrieff des Bordes. Balzac est venu plusieurs fois lire des extraits de ses œuvres parce qu'il voulait, il espérait épouser la fille de Landrieff des Bordes, qui était un très riche personnage. Hein. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Parce que, bon, Andreïev Desbordes a estimé que Balzac n'était pas assez célèbre à l'époque et que ce n'était pas un beau parti pour sa fille. Et Balzac, dépité, s'est tourné vers d'autres soirées dans d'autres manoirs où il y avait une héritière. D'accord. Potentiel. Mais donc, il a, pendant, en 1831 jusqu'à 1837, longtemps, il a fréquenté le manoir de Méret pour la fille de Andreïev Desbordes.
Alors, sur la commune de Mont, on ne va pas évoquer le château de Candé, puisqu'il fait l'objet d'une émission à part entière à retrouver sur notre site internet. On peut évoquer quel genre de château à Mont.
Alors, il y a un château ancien qui s'appelle Hortière, en limite de Jouy-les-Tours, qui est un château de la fin du XVe siècle et qui a la particularité d'être resté dans son jus. C'est-à-dire qu'il n'a pas été tellement habité, il est resté tel quel, avec la petite tourelle d'escalier. Il y avait l'intérieur des murs en torchis et des plafonds en torchis aussi qui sont bien abîmés, mais il est en cours de restauration parce qu'une famille va y habiter. Il y a le château donc de La Fresnaye, disparu, remplacé par un manoir. Mais il y a deux grands châteaux du 19e, on parlait des nouveaux riches. Il y a le château de La Roche et le château du Breuil, qui sont tous les deux au fond de très grands parcs et qui appartenaient à la même famille. Et donc, il y avait deux fils. Les deux fils se sont partagés les deux châteaux. C'était d'une famille de la ville Leroux, qui compte un petit peu dans l'histoire, parce que les deux, la ville Leroux, il y en a un qui est représenté, qui était député au moment de la Révolution, et qui est représenté sur un tableau de David, où il a le serment du jeu de paume. Il est sur un côté, il prête le serment avec les autres. Voilà, bon, c'était un riche armateur nantais. Et donc, ces deux châteaux-là ne sont pas visibles de la route, parce qu'ils sont au fond de leur très vaste parc.
Oui, le Breuil a été restauré il n'y a pas si longtemps que ça.
Le Breuil avait été hérité par l'université de Tours, qu'il a eu pendant une bonne trentaine d'années, et qu'il a abandonné cette donation, et maintenant ça a été vendu à un privé.
Et en bordure de la commune de Sorigny, on a le château de Longue-Plaine qui est à cheval sur les communes Mont-Sorigny.
Voilà, alors Longue-Plaine, oui, il avait une particularité, c'est qu'il est vraiment sur la limite, et jusqu'en 1953, il a été coupé en deux par la limite, le parc était sur Mont, et une partie de la salle de séjour était sur Mont, et le reste était sur Sorigny.
Aujourd'hui, il est entièrement rattaché à Sorigny.
Complètement sur Sorigny. Alors, c'est une ancienne forteresse aussi, qui a été reconstruite, largement modifiée.
Oui, il reste deux tours devant.
Voilà, vers 1505, remodifiée en 1710, et il reste donc deux tours. Il y avait devant, jusqu'en vers 2000, un porche, un grand porche néo-gothique avec deux fausses tours qui avait été mis là dans les années 1920 et qui a été enlevé par le propriétaire parce que c'est vrai, c'était du faux gothique, du néo-gothique. Et le parc a été complètement restauré. Alors ce château, il a appartenu au XVIIIe siècle à un ami de Napoléon et aussi un ami de Talleyrand. Il allait souvent au château de Rochecotte qui appartenait à Talleyrand parce qu'il était son porte-plume, son notaire, son secrétaire. Il est même allé, quant à la chute de Napoléon en 1815, il a participé à la rédaction du traité du Congrès de Vienne en 1815, qui repartageait l'Europe. Et tout ce qui avait été pris par Napoléon s'était redonné aux Anglais, aux Autrichiens, ainsi de suite. Et donc, le propriétaire du château de Longue-Plaine, à ce moment-là, a participé au Congrès de Vienne à ce titre-là.
Et aujourd'hui, il est comme d'autres, il sert de salle de réception et de location.
Voilà.
On va faire une petite coupure musicale et on se retrouve après pour les derniers châteaux sur le Val de l'Indre. À tout de suite.
Thank you.
Toujours emmenez-moi sur la rage, c'est Rémi Baudin avec l'historien Pierre Audin. On parle des châteaux, des manoirs en Val-de-l'Indre. On va faire un petit saut. On se retrouve sur la commune de Vaigné, un château dont j'avais vaguement entendu parler, mais sans plus, celui de Couzières, Pierre Audin.
Oui, Couzières à Vaigné, c'est celui qui a été occupé par le duc de Montbazon quand il a laissé la forteresse et surtout le château neuf du 15e siècle.
Foulconnera, c'est ça ?
Oui. À l'intérieur du donjon, il avait fait déjà un autre château.
D'accord.
Alors là, et ce château, il a la particularité d'avoir d'abord un très beau parc. Il y a une demi-douzaine de sources un petit peu chargées de calcaire et puis des rocailles, un petit peu comme le château de Bel Air
à
Truy, mais qui lui est un château beaucoup plus récent. Mais aussi, il a été le lieu de l'entrevue entre Louis XIII et sa mère, Marie de Médicis. En septembre 1619, il faut dire que le roi Louis XIII était tellement dominé par sa mère qu'un jour il en a eu assez et il l'a renvoyée, elle s'est rebellée, il l'a envoyée en résidence surveillée dans le château de Blois. Elle s'est évadée du château de Blois et elle a recruté des troupes, elle avait des amis, le duc d'Épernon. Et donc c'était la guerre civile qui menaçait. Et Richelieu s'est interposé, il a organisé une rencontre dans le château de Couzières entre Louis XIII et sa mère Marie de Médicis, et donc il y avait aussi Richelieu, donc en septembre 1619, et je lis le compte-rendu de l'époque,
oui.
La reine-mère s'est en allée dans les jardins au-devant de son fils, elle l'a embrassé, elle l'a baisé, je ne connais pas trop la différence, mais enfin, et elle s'est prise à pleurer.
Donc c'est la réconciliation
en c'est la réconciliation, ils se sont fâchés un peu après, il y a eu d'autres réconciliations avant la paix définitive, il a fallu qu'elle abandonne définitivement la politique. C'était difficile pour elle. Donc, c'est ce qui a marqué le château de Couzières, qui était beaucoup plus grand qu'il n'est maintenant. Il y a une partie qui était démolie par les ducs de Montbazon.
Magnifique, ça s'est passé à Vigny, c'est très beau. Qu'est-ce qu'on a sur Èvre ?
La Dorée. Alors là, c'est un manoir qui a appartenu à un frère de Napoléon. Et puis, un peu plus tard, au baron Audard. Baron Audard, c'était le plus célèbre empélographe de France. Qu'est-ce que c'est qu'un empélographe ?
Vous allez me le dire.
C'est un passionné de vignes et de cépages de vignes. Et l'empereur Napoléon III lui a donné l'ordre de retrouver des cépages dans toute l'Europe. Il a voyagé beaucoup. Mmh. Il a une collection de cèpes de vignes, de cépages de vignes qui étaient uniques en France. Et donc, il a écrit beaucoup de livres sur les différents cépages de vignobles. Et alors, à plus tard...
Il n'est pas à l'origine du noble jouet ?
Non.
Non.
Mais en partie, quand même, il s'est inspiré de ce qu'il avait. Ses collections ont disparu, malheureusement. Et en 1910-1911... Matahari, la célèbre espionne d'origine hollandaise, y a résidé. Elle était venue là avec un banquier, un nommé Blanchard, qui l'avait présenté à la population tourangelle sous un faux nom. Il n'a pas dit que c'était sa maîtresse en réalité. Hein. Et donc, elle a passé 2 ans là. Et quand le banquier était ruiné, eh bien, Matahari l'a laissé tomber, évidemment. Et Blanchard, le banquier, est retourné vers sa femme, qui peut-être elle-même l'a laissé tomber aussi, je ne sais pas.
Donc, le château de la Dorée, c'est ça ?
La Dorée,
où
oui.
Où situe-t-il dans la commune d'Èvre ?
Eh bien, il est un peu sur les hauts de d'Èvre, tout à fait dans le fond du plateau, hein, dans le nord du plateau.
D'accord. Alors, un château où aussi se sont succédés quelques célébrités, ou en tout cas, c'est la pub qui en est faite, mais château qui est assez récent, en tout cas dans sa dernière forme, c'est le château d'Artigny.
Voilà, Artigny, oui, il est sur un emplacement d'une forteresse qui a été détruite, remplacée par un autre château du 18e, dans un style Louis XV, qui a été agrandi en 19e siècle, et qui a été acheté en 1912 par François Coty, qui était le célèbre parfumeur. Les parfums Coty, d'ailleurs, existent toujours, hein. Et quand il l'a rasé, il a reconstruit un château dans le style Louis XV, beaucoup plus grand que le précédent, et sur l'imitation d'un château de Champlâtreux dans le Val d'Oise. Et il a ajouté une chapelle qui était une réduction de la chapelle du château de Versailles, mais il n'a pas eu le temps de la terminer. Et le toit est en terrasse. Alors c'est un château magnifique, hein, très beau décor, extérieur comme à l'intérieur. À l'intérieur, il y a des sols en marbre incrustés de bronze. Il y avait des glacières pour les fourrures de madame. Il y avait une centrale électrique en bas,
oui.
Au bas de l'Inde. Il y avait des serres à orchidées.
Il y avait un moulin aussi le long de l'Inde.
Il y avait un moulin, il y avait même plusieurs moulins. Et ce qui caractérise ce magnifique château, c'est qu'il a, au premier étage, il avait une coupole qui abritait le bureau de François Coty. Et cette coupole, faite par Charles Hofbauer, est décorée de fresques qui représente une sorte de feu d'artifice de nuit. Les gens sont au balcon en train de regarder le feu d'artifice. Et là, il y a des personnages connus qui sont présentés. Évidemment, François Coty et son fils, mais il y a aussi des danseurs, des maîtres de ballet comme Serge Liffard ou Diaghilev. Il y a l'Agacan. Et il y avait des acteurs, des actrices de cinéma, Marie Marquet, Edwige Feuillère, Cécile Sorel, qui sont bien oubliées maintenant.
Donc là, c'est une vraie démonstration de moyens, de financiers, de faste.
Il y avait Paul Dubonnet, vous savez, Dubonnet, l'apéritif, qui est certes qu'à présenter aussi. Donc, c'est plus de votre époque, mais c'est la mienne.
Non, mais ça me dit quelque chose quand même.
Voilà, on voit ça encore là, sur quelques panneaux un peu effacés, peints.
Et sur... alors, après l'époque François Coty, je crois qu'on a reçu des présidents de la République.
Oui, voilà.
Alors encore mieux que Matari.
Voilà, Valéry Giscard d'Estaing y est venu, la reine d'Angleterre y est venue, le Négus, Haïlé Sélassié, l'empereur d'Éthiopie y est venu aussi.
Il y a même eu vent d'un rendez-vous plus ou moins secret entre François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing, c'est vrai ça?
Voilà,
ou pas?
Oui.
Comment on peut faire des rendez-vous secrets entre deux personnalités comme ça?
C'était pas secret, mais enfin, bon, disons que il n'y avait pas de thème précis annoncé à la rencontre, quand ils étaient autour d'un bon repas.
Parce que le château d'Artigny est un hôtel-restaurant qui a récemment reçu sa 5e étoile et très très connu pour ça, avant de l'être pour l'histoire, maintenant il l'est pour ça.
Parce qu'il a été abandonné, il a été saisi à la mort de François Coty, ses héritiers n'ont pas pu le conserver parce que François Coty était très engagé politiquement à l'extrême droite.
D'accord. Bien, on va terminer sur l'extrême droite, sur notre petit tour des châteaux. Il y en a bien d'autres, Pierre Audin, vous avez bien souligné qu'il y en a sur toutes les communes
de la
CCVI. On en dénombre, vous avez dit, une trentaine en tout, c'est ça?
Ah oui, 35. On aurait pu parler du château de la Tortinière, qui est maintenant un bel hôtel-restaurant.
Ouais, lui aussi, comme beaucoup.
Voilà, le prince héritier de Prusse y a séjourné en 1871, après la victoire des Prussiens sur... les Français, par exemple, il y a souvent beaucoup d'anecdotes. Le manoir de l'Alouette à Artin, on n'a pas eu le temps d'en parler. Mais
avec Balzac.
Balzac, on en parle pas mal. Figurez-vous un joli petit château blanc, joli. Un château mignon qu'on aura envie d'emmener dans sa poche, dit-il. Voilà, donc, il était tombé un peu amoureux de ce joli manoir.
Lui aussi, à proximité directe de l'Indre, comme bien souvent. Alors, pour retrouver des travaux sur ces châteaux et aller plus loin, il y a vos travaux, vos recherches, Pierre Audin, le guide du Val de l'Indre en Touraine. Et bientôt, vous allez sortir, me dites-vous, un dictionnaire de la Vallée de l'Indre.
C'est ça.
Alors, pour se procurer ces ouvrages, vous pouvez contacter directement Pierre Audin via la Seria au 02 47 65 99 72. 02 47 65 99 72 directement. Contactez l'auteur. Merci beaucoup, Pierre Audin.
Merci à vous.
On vous retrouvera peut-être pour une prochaine émission. Allez savoir.
Volontiers.
C'était Emmenez-moi sur la trace des manoirs et châteaux en Val de l'Indre. Sur la rage. À bientôt. Au revoir.
Le patrimoine et la culture ne pouvant pas parler d'eux-mêmes, il faut un intervenant.
En gros, à cette époque, la France est morcelée entre plusieurs seigneurs.
Dès le premier millénaire, on va parler de Candé, mais dans des dialectes différents. Hein. Les Celtes, les Latins parlent de Condat, Condatum, Condéium.
Au-dessus du château d'Èvre, là, on a suffisamment maintenant d'éléments pour voir qu'on a un habitat dans ce qui...
Disons qu'avant la Révolution, on comptait 3 chapelles dans la commune.